J'ai choisi pour la prédication de ce matin un texte également proposé par le guide de lecture de la Bible en 6 ans, à la date de ce jour. Il s'agit d'un verset très court que nous venons d'ailleurs de lire en Éphésiens 5. Ce verset, je ne l'ai pas choisi parce qu'il m'a inspiré au premier coup d'œil. Au contraire, je l'ai retenu justement parce qu'il m'a décontenancé et même dérangé en première lecture. Je vous propose de le relire dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 5. Il s'agit du verset 16. Éphésiens 5, verset 16. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est sur cette recommandation de l'apôtre Paul, qui tient en 8 petits mots, que portera notre prédication ce matin. Notre développement comprendra 2 parties, très simples à suivre, qui suivent le découpage du texte. Tout d'abord, comment comprendre cette sentence « les jours sont mauvais » et ensuite, que signifie cette recommandation « racheter le temps » Commençons donc par commenter la seconde section du verset « les jours sont mauvais ». J'ai toujours eu du mal avec ce genre de sentence, de vérité absolue « les jours sont mauvais ». Ça me fait penser à une autre sentence avec laquelle j'ai beaucoup de mal. C'était mieux avant. Je me suis toujours demandé ce qui était mieux précisément. Tout était-il vraiment mieux avant? Ou bien certaines choses seulement étaient-elles mieux avant? Et puis c'était quand avant? On parle d'hier, d'il y a 10 ans, d'il y a un siècle? Doit-on en déduire que nous sommes pris dans une dynamique implacable, faisant du jour suivant forcément un jour moins bien que le jour d'avant? Oui, je l'avoue, j'ai beaucoup de mal avec ce genre de sentence. Alors forcément, en tombant sur cette parole de l'apôtre Paul, à la première lecture, je suis désarçonné, évidemment. Que veut-il nous dire quand il énonce cette vérité, les jours sont mauvais? S'agit-il d'une parole évoquant une réalité générale et intemporelle du monde? Les jours sont mauvais, c'est comme ça. Tant que Dieu n'en aura pas décidé autrement, nous serons bien obligés de vivre avec et dans cette réalité. Ou bien, s'agit-il d'une parole circonstancié, décrivant une réalité précise en un temps donné et dans un espace périmétré? Les jours sont mauvais. À Éphèse, dans cette ville d'Asie mineure, dans ce premier siècle après Jésus-Christ. Nous ne savons pas avec certitude dans laquelle de ces deux optiques se situait Paul en écrivant ces mots. Cependant, parce que la parole de Dieu souhaite nous rejoindre, toucher le plus grand nombre en différents lieux et en différentes époques, je me dis que, sûrement, nous pouvons recevoir cette parole des deux manières. Les jours sont mauvais, voilà une réalité intemporelle. Les jours sont mauvais, voilà une réalité spécifique à une situation rencontrée quelque part à un instant donné. Essayons de développer ces deux idées, non pas pour le plaisir d'ergoter, cela ne servirait à rien, mais pour mieux nous laisser convaincre et mieux accepter cette sentence, a priori choquante, de l'apôtre Paul. Les jours sont mauvais. En quoi s'agit-il d'une réalité intemporelle? En fait, cette expression revient à plusieurs reprises dans la Bible. Nous la retrouvons dans l'Ancien Testament, notamment dans le livre du prophète Amos, quasiment mot pour mot. Nous la retrouvons également à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament, dans les épîtres de Paul en particulier. Cette parole, parce qu'elle est récurrente dans la Bible, résonne forcément à travers les siècles, à tel point que nous l'entendons, nous, ce matin. Elle n'exprime pas forcément l'idée que tous les jours sont mauvais, tous les jours sont difficiles, tous les jours sont une épreuve. Certains jours sont plus mauvais que d'autres. Nous-mêmes, dans notre vie, les jours, les années se suivent et ne se ressemblent pas forcément. Il y a des périodes de vaches grasses et des périodes de vaches maigres. Cette idée-là aussi nous vient de la Bible. Elle exprime plutôt l'idée qu'il ne nous appartient pas de décider si les jours seront mauvais ou s'ils seront bons. Il existe une forme de fatalité en la matière. Il faut bien le reconnaître. Les jours sont mauvais parce que la souffrance est toujours présente dans le monde. La souffrance sous toutes ses formes. Je ne citerai qu'un exemple, la maladie. La maladie est présente dans le monde. Il suffit de regarder autour de nous, d'observer nos proches. La maladie est là, plus ou moins subite, plus ou moins chronique, plus ou moins douloureuse. Mais elle est là. Les jours sont mauvais parce que les inégalités sont toujours présentes dans le monde. Les inégalités de toutes sortes. Celles entre pays riches et pays pauvres, entre personnes ayant accès à l'éducation et personnes n'ayant aucune chance de s'extraire de leur milieu. Inégalité d'accès au numérique, y compris en France, aujourd'hui, c'est une réalité. Je ne sais pas dire si le monde est plus inégalitaire aujourd'hui qu'hier, mais il le demeure profondément, c'est certain. Les jours sont mauvais parce que le péché est présent dans le monde. Le péché est présent et il se manifeste de bien des façons. Parfois de manière extrêmement choquante, visible, sous la forme de violence, de corruption, d'exploitation de l'homme par l'homme. Parfois, et probablement le plus souvent, sous des formes beaucoup plus pernicieuses. Le péché se manifeste à travers des petits coups bas, des pensées malsaines, de l'inaction, là où il faudrait agir. Cette manifestation-là du péché, nous la connaissons bien, tous, sans exception. Elle constitue notre quotidien. Nous pouvons faire nos meilleurs efforts, mettre toutes les chances de notre côté. Pour autant, nous devons accepter cette réalité. Il y aura toujours des jours mauvais, c'est certain. Les jours sont mauvais, nous dit Paul. Ils le sont plus ou moins, selon les lieux et selon les époques, mais ils le sont. Et ce constat ne constitue pas nécessairement le signe que la fin des temps est proche, comme on l'entend parfois. Amos l'écrivait déjà il y a près de 3000 ans. Paul l'écrivait à nouveau il y a 2000 ans. Nous pouvons le constater aujourd'hui, en 2021. Cette vérité-là paraît intemporelle. Mais peut-être cette vérité revêt-elle en plus un caractère spécifique, propre à chaque époque. En quoi les jours seraient-ils spécifiquement mauvais aujourd'hui, en France, en 2021 ? Actuellement, plus que jamais, et malheureusement, il est facile de répondre à cette question. Car le monde connaît aujourd'hui un mal que personne sur la planète, ou presque, ne peut ignorer. Cette crise sanitaire qui dure depuis un an et demi et qui est encore loin d'être terminée. Une crise sanitaire, mais pas seulement. Une crise sociale, économique, environnementale, sociétale. Une crise massive. En France, nous en sommes à la quatrième vague. Et chacune de ces vagues apporte avec elle son lot d'hospitalisations, de morts, mais aussi de mesures restrictives, d'inquiétude, d'opposition. Actuellement, le pays se divise sur la question de la vaccination et du pass sanitaire. Et pendant ce temps, le système de santé n'en peut plus. Je travaille dans un hôpital. Nous avons soigné des centaines et des centaines de patients touchés par la Covid. Nous continuons. Un certain nombre n'a pas survécu. Les équipes médico-soignantes sont épuisées. Dans tous les hôpitaux, la situation est extrêmement tendue à tout point de vue. C'est mon quotidien, c'est le quotidien des hôpitaux depuis des mois et ce n'est pas fini. Et à ce contexte sanitaire qui concerne tout le monde, de près ou de loin, s'ajoutent toutes les épreuves qui sont propres à chacun, des épreuves d'ordre professionnel ou familial, physique ou psychique, mental, psychologique ou spirituel. Oui, qu'il s'agisse d'une vérité intemporelle ou au contraire d'une vérité très conjoncturelle aujourd'hui en 2021, il est difficile de contredire l'apôtre Paul. Les jours sont mauvais. Terrible constat. Rassurez-vous, nous n'allons pas en rester là, confinés dans ce marasme et cette déprime. Posons-nous plutôt la question, qu'allons-nous faire face à ce constat? Nous pourrions lister toutes les nuances et tous les contre-exemples que nous pourrions opposer à tout ce que je viens de décrire. Évidemment, et heureusement, nous trouverons beaucoup de raisons de dire que les jours ne sont pas si mauvais que ça. Certains jours sont très doux à vivre, surtout en cette période estivale. Nous sommes richement bénis, ayons-en conscience, n'en doutons pas. Mais ce n'est pas ce que je vous propose de faire à présent. Ce n'est pas, il me semble, ce à quoi doit nous pousser la lecture de ce passage ce matin. Il ne s'agira pas non plus de trouver la formule magique qui fera en sorte qu'il n'y ait plus jamais de jours mauvais. Ça, c'est clair, ce n'est pas dans nos cordes. Nous n'y arriverons pas, nous ne sommes pas Dieu. Ce que je vous propose, c'est d'abord d'accepter, de reconnaître que certaines choses s'imposent à nous, que nous le voulions ou non. D'accepter qu'il n'est pas dans notre pouvoir de contrecarrer certaines réalités, qu'elles revêtent un caractère intemporel ou un caractère très spécifique qui nous est propre. Mais cette acceptation ne doit pas nous pousser à baisser les bras. Bien au contraire, l'acceptation de cette vérité, les jours sont mauvais, doit nous aider à prendre conscience que chaque jour que nous vivons revêt une certaine gravité, une certaine urgence. L'heure est grave. Il faut réagir. Et réagir comment? Eh bien, c'est l'apôtre Paul lui-même qui nous apporte la réponse. Quand les jours sont mauvais, ce qu'il faut faire, c'est racheter le temps. Nous entamons la seconde partie de cette prédication en nous attaquant maintenant à la première portion du verset « Racheter le temps ». Comme cette sentence « Les jours sont mauvais » nous a surpris, cette idée de rachat du temps peut surprendre également. Il faut noter que Paul utilise ici exactement les mêmes mots que dans son épître aux Colossiens, chapitre 4, verset 5. Racheter le temps, c'est dire s'il tient à cette idée. Que signifie racheter le temps? Nous sommes obligés ici de remonter au texte grec pour comprendre à la fois ce que signifie le verbe racheter et ce à quoi l'apôtre fait référence lorsqu'il mentionne le temps. Le terme grec employé pour racheter est hexagorazo. C'est un verbe directement issu du langage commercial qui signifie littéralement racheter toute la marchandise disponible sur le marché. Autrement dit, devenir le maître du marché. Cette idée de rachat implique forcément l'idée d'effort. On devine que pour racheter toute la marchandise du marché, il faut mettre le prix, dépenser beaucoup, peut-être prendre des risques. Ce n'est pas un acte gratuit par définition. C'est un acte qui demande de la détermination, du courage, voire du sacrifice. Une autre idée associée à ce verbe « racheter », exagorazo, c'est celle d'émancipation. En rachetant tout le marché, on inverse le rapport de force. D'acquéreur qui subit le prix du marché, le prix du vendeur, on devient maître absolu, car l'intégralité de la marchandise nous appartient. On s'émancipe soi-même du marché. Mais pas seulement. Il y avait dans les marchandises de l'époque, sur l'agora d'Éphèse notamment, et c'est bien aux Éphésiens que Paul s'adresse ici, des hommes et des femmes à vendre, des esclaves. En rachetant toute la marchandise, on offre également une possibilité à ces esclaves d'être émancipés, de retrouver leur liberté. Voilà tout ce qu'il y a derrière cette idée de rachat, très dur à traduire en un simple mot. Il s'agit de saisir quelque chose avec autorité et de s'en rendre totalement maître. Rien que ça. Ce qu'il faut racheter ici, ce ne sont pas des marchandises, c'est le temps. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le terme « temps » dans ce passage ne désigne pas le temps en général, le temps qui s'écoule. Ce n'est pas le mot « chronos » qui a été choisi. Ici, il s'agit du terme « kairos ». Il ne désigne pas le temps en général, mais plutôt l'instant, l'occasion qui se présente à un moment donné. C'est pour cette raison que certaines traductions dites dynamiques de la Bible, comme la Bible du Semeur ou la Bible en français courant, traduisent ce verset de la manière suivante « Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous ». Ou encore « Faites un bon usage de toute occasion qui se présente à vous ». Ces deux traductions ne parviennent que partiellement à restituer toute la richesse du texte grec originel, mais c'est d'ailleurs le problème de toutes les traductions, on comprend l'idée générale. Parce que les jours sont mauvais, chaque instant est précieux. Parce que les jours sont mauvais, le chrétien ne doit pas laisser passer une occasion de faire ce qu'il convient de faire. Il ne doit pas laisser le temps lui échapper, lui manquer, lui imposer ses lois et ses contraintes. Au contraire, il doit se libérer de l'esclavage du temps pour en devenir le maître. Il doit saisir le temps qui se trouve là devant lui. Il doit le dominer, il doit le mettre à son service pour faire la volonté de Dieu. Voilà ce qu'il nous est demandé en ces jours qui sont mauvais. Alors maintenant que nous avons bien compris le sens de cette recommandation de Paul, posons-nous la question. Qu'allons-nous faire de tout ça ? Comment pouvons-nous racheter le temps ? Comment pouvons-nous nous saisir de chaque instant pour faire la volonté de Dieu ? Encore une colle. Faut-il se précipiter dans l'action, histoire de ne perdre aucune seconde ? Évangéliser toutes les personnes que l'on croise dans la rue. Ne plus dormir du tout, ne plus se taire du tout. Comment allons-nous racheter le temps ? Nous n'irons pas chercher bien loin des éléments de réponse. Je n'apporterai que des éléments de réponse à cette question. Je propose plutôt, tout simplement, de relire le passage dont est extrait le verset, passage que nous avons déjà lu à la fin de la première partie. Nous le relisons à présent, Épître aux Éphésiens, chapitre 5, les versets 15 à 20. Veillez donc avec soin sur votre conduite, non comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Rendez toujours grâce pour tout à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà de quoi nous inspirer. Il ne s'agit pas d'une recette miracle, simplement de recommandations que nous pouvons embarquer avec nous ce matin, des recommandations qui nous viennent de l'apôtre, qui nous les adresse au moyen de 7 verbes conjugués à l'impératif, quand même, veillez, comprenez, soyez remplis de l'esprit, entretenez-vous, chantez, célébrez, rendez grâce. Veillez tout d'abord sur votre conduite, ayez conscience que ce que vous faites a des répercussions. Comprenez quelle est la volonté de Dieu, faites preuve de discernement, recherchez quelle est sa volonté, prenez de la hauteur sur les événements. Soyez remplis de l'Esprit, sollicitez sa présence en vous, avec vous, reconnaissez que vous en avez besoin. Entretenez-vous par des chants, des hymnes, des cantiques spirituels. La relation avec Dieu et avec les frères s'entretient. Elle nécessite une pratique régulière. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Confessez pleinement la puissance et la bonté de notre Dieu. Rendez grâce pour tout à Dieu, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ayez le cœur rempli de reconnaissance. Dites merci. Merci pour le salut en Christ. Merci pour la vie. Merci pour les bénédictions. Voilà quelques pistes qui nous sont données pour racheter le temps. La liste n'est pas exhaustive. Il y en a sûrement beaucoup d'autres. Et il nous revient à chacun de décliner cette parole de l'apôtre Paul, cette parole de la Bible dans nos vies. Parce que le temps est précieux. Parce que chaque instant a de la valeur. Parce qu'il n'y a plus de temps à perdre. Je ne sais pas si en suivant cette recommandation, si en rachetant le temps, les jours seront moins mauvais. Sûrement arriverons-nous à les adoucir, surtout si nous nous y mettons tous. Mais je ne suis pas persuadé que ce soit le but ultime de la manœuvre. Le but en rachetant le temps, ce n'est pas forcément de nous rendre la vie facile. Le but, c'est de vivre cette vie en recherchant la volonté de Dieu dans un esprit de joie et de reconnaissance. Même si les jours devaient demeurer mauvais, c'est ça le but. Et tout le reste nous sera donné en plus. Amen.